Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat. Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Bonjour à tous et à toutes. Canicule, incendie, inondation, pénurie ou rationnement d'eau potable sont des qui reviennent régulièrement dans les articles de presse et les bulletins d'actualité des chaînes d'information. À ce jour, chacun de nous se rend compte des conséquences matérielles au changement climatique, mais par contre, chacun de nous apprécie individuellement les conséquences de ces changements sur sa propre santé. Face à la situation peu réjouissante que je viens de décrire, plusieurs corps de métier se mobilisent dans le monde territorial pour atténuer les conséquences sanitaires sur la population. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le sujet de la végétalisation des villes en rencontrant M. Frédéric Ségur, responsable ingénierie et prospective de la direction du patrimoine végétal de la métropole de Lyon. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Frédéric, depuis plusieurs années, au moins un épisode caniculaire se répète chaque été et cela a déclenché dernièrement une certaine accélération des annonces relatives à la végétalisation des zones urbaines. En quoi, d'après vous, investir dans la végétalisation des espaces urbains, cela peut avoir un impact sur la santé de leurs habitants?
Alors, c'est un sujet qui est réfléchi depuis très longtemps. Parce que déjà, dès l'Antiquité, les Grecs plantaient des jardins et attribuaient effectivement des rôles thérapeutiques aux plantes. Dans la conception des villes modernes que l'on connaît, au XIXe siècle, on faisait ce lien entre la santé, le bien-être et la renaturation des villes. C'est pour ça que, au XIXe siècle, on a créé des parcs, on a créé des squares, on a créé des avenues plantées. Et les objectifs, c'était pas que faire joli. La nature en ville, elle avait aussi des fonctions sur l'amélioration de la qualité de l'air, elle avait des fonctions sur l'ombrage, elle avait des fonctions sur la santé qui était attendue. Ces choses-là, on les a un petit peu oubliées pendant très longtemps, notamment au XXe siècle. On a eu une vision très fonctionnelle, très utilitaire de la ville, qui était centrée sur les réseaux, sur la voiture, sur des choses relativement dures. Et on a oublié effectivement que la nature, la végétation en ville, c'était pas qu'un élément de décoration et que ça pouvait rendre d'autres services. Alors, globalement, depuis maintenant une trentaine d'années, les villes réinvestissent massivement dans la plantation. Ça se fait de manière plus ou moins rapide selon les secteurs, mais il faut savoir que ça fait 30 ans qu'il y a ce mouvement de balancier qui est parti pour renaturer les villes. Au départ, c'était essentiellement pour répondre à la demande sociale des habitants, pour répondre aussi à des objectifs d'attractivité du territoire. Le développement économique d'une ville, il dépend aussi de son image. Son image, c'est aussi son paysage. Et donc, il y a eu des investissements importants qui ont été faits sur ces aspects. Depuis quelques années, on a redécouvert effectivement que la nature en ville, c'était aussi une source de services. L'eau, elle participe à la qualité de l'air, elle participe à la gestion de l'eau. On peut gérer l'eau de manière alternative avec des espaces verts plutôt que de la mettre dans des tuyaux et l'envoyer dans des usines. Elle participe à la lutte contre l'érosion, elle participe à plein de choses et notamment elle participe au rafraîchissement de la ville, notamment par l'ombrage, par l'évaporation de l'eau par les plantes. Tous ces facteurs, tous ces services qui sont rendus par les habitants, on peut les mettre en relation avec des bénéfices pour la santé des habitants.
Alors, vous avez parlé d'un mot qui, pour moi, j'ai pas ce vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, renaturer une ville?
Alors, parfois, on fait effectivement des oppositions un peu trop fortes. On dit, voilà, c'est la nature ou c'est la culture, c'est la ville ou c'est la nature. En fait, la renaturation de la ville, c'est d'expliquer que la présence du végétal, la présence du vivant, ce sont des composantes de l'aménagement de la ville. La ville, c'est pas uniquement du minéral qui viendrait remplir des vides, c'est un équilibre entre des espaces vivants et des espaces aménagés. Et donc la renaturation de la ville, elle se réfléchit à différentes échelles, à l'échelle de l'urbanisme, de la planification, où on essaye justement de faire ce ratio entre ce qui est plein, ce qui est vide, ce qui est minéral, ce qui est végétal, et puis à l'échelle bien sûr des projets, public ou privé, à chaque fois qu'on fait un projet, il faut se poser la question effectivement de comment je peux intégrer le végétal pour corriger des défauts liés à l'hyperminéralité des villes. On parlait effectivement des pics de chaleur qui sont liés au changement climatique. Il faut savoir qu'en ville se cumule un autre effet qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain. La ville, c'est un milieu très minéral, très imperméable, et qui va concentrer la chaleur du rayonnement solaire pendant la journée, et cette chaleur va être restituée pendant la nuit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au cœur d'une grande ville, il fait toute l'année entre 2 et 4 degrés de température en plus que dans la campagne environnante. Et quand on est dans une nuit pendant une période de canicule estivale, cet écart de température, il peut monter jusqu'à 11 degrés la nuit. Et cette différence de température qui fait que il y a plus d'effet de rafraîchissement nocturne au cœur des villes, c'est ça qui était à l'origine des problèmes de santé, notamment de mortalité qu'on observe lors des canicules. Il faut savoir qu'une canicule comme celle de 2003, on lui a attribué à peu près 15 000 surmortalités en France. C'est considérable, et les zones de ces surmortalités, quand il y a eu des études pour voir effectivement quelles étaient un peu les situations, certes il y avait des causes sociales liées à l'isolement des personnes, mais il y avait beaucoup de localisations qui étaient liées à l'effet effectivement de l'habitat en centre-ville, et notamment dans des zones qui sont très peu végétalisées, et à ce moment-là on a fait la corrélation entre le fait d'avoir des quartiers très pauvres en végétation et le risque effectivement d'avoir des problèmes de santé ou des mortalités liées à ces canicules estivales.
Alors vous avez parlé donc de solutions que vous apportez, mais moi en tant que citoyen, ce que je perçois pour le moment dans à l'avancée de notre discussion, c'est que vous m'avez parlé de la végétalisation comme un palliatif. Mais est-ce que maintenant la végétalisation intègre dès le départ les nouveaux projets d'urbanisme d'aujourd'hui et de demain ?
Alors, c'est certain que c'est pas vraiment un palliatif, je dirais que c'est plutôt une solution. Quels sont les problèmes qu'on a aujourd'hui en ville ? Ils sont les mêmes dans toutes les métropoles. C'est une qualité de l'air qui se dégrade, donc avec de plus en plus d'impact sur la santé, sur le développement de toute une série de maladies respiratoires, cardiovasculaires et autres. Il y a ces problèmes de santé liés justement à ces pics de chaleur qui rendent la vie très difficile, qui créent aussi une exposition au rayonnement solaire qui peut causer des problèmes au niveau de la peau. On a tous ces problèmes qui sont liés à la forme classique de la ville, et la renaturation, le développement des arbres, le développement de l'ombrage, c'est des solutions qui permettent de résoudre en partie ces problèmes. Vous voyez, c'est pas uniquement effectivement une idée en l'air, c'est une idée très pratique qui est une solution effectivement pour poursuivre effectivement le développement de la ville et rendre cette ville encore vivable. Alors la question effectivement, c'est l'éducation de tous les métiers qui sont en interface avec les sujets dont on parle, la santé, l'urbanisme, la mobilité, etc., pour faire en sorte qu'ils soient tous en capacité de réfléchir de manière conjointe à ces sujets et de voir effectivement comment cette renaturation elle peut être intégrée de manière intelligente et durable dans ce projet. Il ne s'agit pas de remplacer la mobilité par la nature, il s'agit de faire en sorte que les gens qui se promènent à pied ou en vélo, ils aient de l'ombre pour les protéger.
Oui, la question va se poser de plus en plus, vu qu'on densifie la densification des villes et donc qu'on rassemble tous les gens dans les villes, il va falloir trouver des espaces où ils puissent quand même avoir un accès à des lieux qui ne leur font pas oublier qu'il y a la nature à côté ou qu'elle peut être dans la ville aussi. Oui.
Tout à fait. On a parlé tout à l'heure de l'effet d'îlot de chaleur qui était lié à l'hyperminéralité de la ville. Aujourd'hui, on réfléchit justement à la végétation pour créer des îlots de fraîcheur. C'est-à-dire effectivement comment on compense les maux de la ville par du développement, une évolution de la forme urbaine avec un meilleur équilibre entre le minéral, le végétal, le perméable et l'imperméable, les surfaces ombragées, les surfaces au soleil. C'est les trois leviers sur lesquels on peut travailler.
Effectivement, donc, vous m'avez fait la réagir en entendant perméable, imperméable. Végétalisation, ça veut dire aussi que le non-dit, c'est usage de l'eau.
Non, parce que ce qu'on oublie, c'est que les surfaces végétalisées, en France, c'est toutes les zones non urbaines. La nature, quand on va se promener dans une forêt, personne vient l'arroser. Elle est adaptée à son sol, elle est adaptée à son climat, elle ne demande pas d'arrosage. L'arrosage des plantes en ville, il est lié à des choix artificiels, c'est-à-dire qu'on a choisi des plantes qui ne sont pas adaptées au lieu et qui demandent de l'arrosage. La conception effectivement de la renaturation de la ville, c'est une conception aussi qui est très basée sur des principes d'écologie, c'est-à-dire qu'on essaie de reconstituer des sortes d'écosystèmes naturels. Certes, il faut les arroser pendant les premières années pour initié le développement de cette nature. Mais une fois que la nature est installée, on ne vient plus l'arroser. Et au contraire, on s'en sert justement comme outil de filtration de l'eau, de dépollution de l'eau et de gestion alternative de l'eau. Ce qui permet de faire des économies à la collectivité.
Oui, excusez-moi, mais ça me rappelle, est-ce que c'est pas une pratique en ce moment qui se passe au Japon, où on peut faire des mini-paysages en choisissant les arbres adaptés aussi au lieu, etc.
C'est quelque chose qui se fait de plus en plus en France aussi. On a beaucoup travaillé depuis une vingtaine d'années au niveau des services espaces verts des villes françaises sur le concept de gestion différenciée, c'est-à-dire que la gestion de la nature, elle peut être très sophistiquée, très horticole, si on a des bacs, des suspensions de fleurs qui demandent des engrais, qui demandent de l'eau, etc. Mais elle peut être aussi très naturelle, et dans les logiques naturelles, qui sont des logiques qu'on dit plus d'écosystème, ben, la végétation se contrôle par elle-même. Et donc, elle ne demande pas d'efforts particuliers de gestion. La nature, elle est adaptée, effectivement, elle existe sur Terre depuis des centaines de millions d'années avant l'apparition de l'homme, donc elle n'a pas besoin de l'homme pour exister. Donc la question, c'est quelle nature on veut en ville. Si on veut une nature très horticole, très artificielle, certes, ça demande effectivement des coûts d'intervention importants pour l'arrosage, pour l'entretien, etc. Mais si on conçoit des espaces plus naturels, là, effectivement, on peut avoir des coûts de gestion qui sont beaucoup plus faibles. Et ça, c'est quelque chose de très important, cette logique de gestion différenciée, qu'il faut adapter aussi à la conception différenciée des espaces. C'est qu'aujourd'hui, l'injonction dans les collectivités, on voit effectivement que tout le monde veut mettre davantage de nature en ville, mais parallèlement, les budgets d'entretien baissent de manière considérable. Donc la question, c'est comment on concilie davantage de nature avec moins de moyens pour l'entretenir. Il faut trouver des nouvelles solutions et la conception écologique des espaces de nature qui permettent d'avoir une gestion beaucoup plus extensive, donc beaucoup plus économique, c'est un des leviers pour faire une renaturation des villes qui soit supportable pour le budget des collectivités.
Oui, effectivement. Écoutez Frédéric, d'après vous, faut-il végétaliser à tout prix ou y a-t-il déjà des précautions à prendre pour protéger la santé de nos concitoyens?
Alors, il n'y a pas de solution miracle, il faut essayer d'éviter la pensée unique ou la solution magique. Certes, la question de santé, elle passe déjà par l'éducation. L'éducation au risque, l'éducation aux gestes qui sauvent, il y a toute une série de il y a un vrai travail pédagogique à faire auprès des populations. Les collectivités ont leur part de responsabilité, de potentiel d'action pour faire ce travail pédagogique aussi en direction des populations. Mais le travail préventif de pédagogie, qui peut s'accompagner aussi d'autres travaux préventifs. Le travail que l'on fait sur l'arborisation, sur la renaturation de la ville, c'est aussi un investissement d'avenir pour améliorer la qualité de vie dans la ville demain, dans 20 ans, dans 30 ans. Il ne faut pas oublier effectivement que pour développer une nature qui devient mature, il faut quand même du temps, il faut 10 ans, il faut 20 ans, il faut 30 ans pour avoir un effet d'ombrage, un effet de rafraîchissement qui soit important. Donc effectivement, tout le travail que l'on fait actuellement, c'est un travail qui a quand même comme idée de rendre la vie en ville plus supportable pour les générations qui nous succéderont dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans.
Effectivement. Mais alors là, effectivement, on dit 10, 20 ans, 30 ans, mais si on revient au niveau de la santé, la naturalisation des villes va poser question sur est-ce que en choisissant des végétaux, on ne va pas déclencher des allergies, les pollens, etc. Comment vous faites ça? Vous avez une vision, une dimension santé publique lorsque vous choisissez les matériaux ou les éléments qui constituent les paysages?
Oui, les stratégies de renaturation des villes, elles intègrent dès le départ, effectivement, la question des risques. Il y a beaucoup de risques qui sont liés au changement climatique. Il y a des risques qui sont liés aussi à la situation urbaine. On peut parler, c'est l'actualité en Australie, des risques d'incendie. On peut dire développer effectivement des forêts en ville, ça pose effectivement la question de risques d'incendie. On peut parler effectivement des risques liés aux tempêtes. S'il y a de plus en plus de tempêtes, quels sont les risques en termes de sécurité pour les habitants? On peut parler aussi des questions de pollen. La question des allergies pose un autre problème, c'est de savoir quelle est la cause et quelle est la conséquence. La cause du développement des allergies dans la population, c'est l'exposition à la pollution qui rend les personnes plus sensibles, qui rend les pollens plus allergisants. Donc la véritable cible de la lutte contre les problèmes d'allergie, c'est la lutte contre la pollution. Il ne faut pas se tromper de cible. Après, effectivement, il y a des espèces qui sont plus ou moins allergisantes. Les espèces qui sont allergisantes, c'est des espèces qui ont le pollen qui est véhiculé par le vent, c'est une stratégie de reproduction de ces espèces, mais toutes les espèces n'ont pas ce type de pollen, tous les pollens ne sont pas allergisants, donc il ne faut pas dire pollen égale allergie, effectivement il faut voir quelles sont les espèces qui posent problème. Alors, ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que près de 70% des arbres de la forêt française, des arbres naturels de nos forêts, sont aujourd'hui allergisants pour les populations. Ça traduit véritablement un affaiblissement des défenses immunitaires des populations, notamment des populations qui vivent en ville, et ça pose effectivement des questions. Aujourd'hui, dans le choix des essences, on intègre ces sujets-là, on essaye d'éviter les espèces les plus allergènes, comme par exemple le bouleau ou le cyprès de Provence. Ça, c'est des espèces effectivement que l'on sait très allergènes, donc effectivement, il faut limiter leur utilisation, ça ne veut pas dire ne pas du tout les planter, c'est-à-dire les planter en petite quantité pour pas avoir des concentrations de pollen importants. Et la véritable solution, c'est la diversification des essences. Si vous diversifiez les espèces, vous avez des concentrations de pollen d'une espèce allergisante qui sont diluées. Et donc, il y a beaucoup moins d'effets d'allergie. Donc, cette question, effectivement, de la diversification des essences, c'est au cœur, aujourd'hui, des réflexions sur la renaturation de la ville. Il faut savoir que en France, on a eu 4 siècles de tradition de plantation régulière. Hein, ça a commencé avec Sully et Colbert, quand ils ont planté les arbres le long des routes en France au XVIIe siècle. Ça s'est poursuivi par le nôtre avec la tradition des jardins à la française. Ça a été repris par Haussmann avec les plantations de platanes dans les avenues parisiennes et dans les avenues des grandes villes. Mais ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que cette forme monoculturelle de plantation, déjà, elle est très peu résiliente parce que il suffit qu'il y ait une maladie qui se déclare pour que tous les arbres disparaissent. Donc, par rapport aux enjeux de changement climatique, on sait effectivement qu'il faudrait plus refaire ce genre de choses. Et par rapport aux questions d'allergie dont on discutait, c'est la même chose. Si on fait des plantations diversifiées, on baisse effectivement le risque de surconcentration de pollen allergisant, puisque les arbres fleurissent pas en même temps, ils n'ont pas des pollens qui sont tous allergisants, etc. Et donc on diminue aussi le risque d'exposition justement à ces pollens. Donc cette question, elle est bien prise en compte, mais pour être adaptée, elle ouvre de nouvelles discussions, notamment des discussions avec les architectes des bâtiments de France et avec un certain nombre d'autres acteurs, d'urbanistes, qui vont avoir du mal à remettre en cause, effectivement, 4 siècles de tradition de monospécificité des plantations urbaines en France.
Alors, bon, on amène donc du végétal, je continue dans ma réflexion, hein. On amène du végétal dans la ville, mais le végétal, donc, certes, il a sa vie propre, il se pollinise, c'est son système de reproduction qui est là. Mais il amène aussi toute une faune. Comment on se projette sur le demain ?
Alors, effectivement, on parle souvent des plantes, parce qu'effectivement, les collectivités gèrent des plantes, gèrent des arbres, gèrent des espaces verts, etc. Mais un arbre, un espace vert, c'est avant tout un écosystème. Et c'est vrai qu'un écosystème, ça veut dire que c'est un milieu vivant qui fonctionne grâce et avec et pour d'autres êtres vivants. Et notamment, des espaces verts en ville, ils permettent effectivement de nourrir des insectes qui nourrissent des oiseaux, il y a toute une chaîne alimentaire qui se met en place, et donc plus de nature en ville, moins de pesticides, puisque il faut savoir que les villes aussi ont renoncé depuis quelques années de manière volontaire ou de manière obligée d'utiliser... Voilà, mais il y avait des collectivités qui avaient commencé longtemps avant. Nous, sur la métropole de Lyon, on avait commencé dès 2004 à travailler sans produits phytosanitaires sur la gestion des arbres, par exemple, alors que la loi est sortie en 2017. Donc, il y a eu beaucoup de collectivités en France qui ont anticipé sur ces questions-là. Mais aujourd'hui, effectivement, le fait de plus utiliser de pesticides, ça fait qu'il y a beaucoup plus de végétation spontanée, mais il y a aussi beaucoup plus de cortèges d'insectes, d'oiseaux qui se développent. Alors, c'est quelque chose qui est positif parce que, à côté des questions liées à l'adaptation au changement climatique, un des gros autres enjeux de notre société, c'est la lutte contre l'érosion de la biodiversité, qui peut, à terme, atteindre l'homme, sa civilisation et sa santé. Et donc, cette question, effectivement, de la lutte contre l'érosion de la biodiversité, ça passe aussi par cette stratégie de renaturation des villes, pour que les villes ne soient plus des obstacles à la mobilité de la biodiversité, mais soient plutôt des corridors qui permettent à cette biodiversité de passer. Alors la question qui se pose...
On parle de ruches dans les villes, des choses comme ça, quoi, pour réhabiliter, pour accepter les abeilles, ces insectes qu'on ne voyait qu'à l'extérieur des villes, et leur redonner chance pour qu'ils renaissent. Quoi.
Voilà. Alors après, le problème avec le vivant, c'est qu'on ne contrôle pas forcément les choses. C'est-à-dire, effectivement, si vous plantez des arbres ou des arbustes, vous allez choisir les espèces. Par contre, quels sont les types d'insectes ou les types d'oiseaux qui vont revenir derrière? ça vous le contrôlez pas. Et donc la grosse difficulté de l'acceptation de la biodiversité en ville, c'est que souvent les premières espèces qui reviennent, c'est des espèces généralistes, qui sont des espèces qui peuvent aussi créer des disservices, d'être mal acceptées par les habitants. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit des nuées d'étourneaux qui se baladent en ville, ça pose des problèmes de salubrité, ça pose des problèmes de salissure. Il y a un certain nombre d'insectes, effectivement, qui profitent effectivement de milieux naturels, des moustiques, des araignées, etc., qui sont pas forcément bien vus aussi des populations. Et donc, c'est toute la question, effectivement, de la lutte contre l'érosion de la biodiversité qui consiste, effectivement, à... On est encore dans une période d'acquisition de connaissances pour voir, effectivement, quel est le lien et comment on peut réguler, effectivement, de manière positive cette biodiversité. Hein, on veut l'encourager, mais, effectivement, parfois, elle va dans des directions qui ne sont pas celles qu'on souhaiterait.
Il va y avoir un gros travail de rééducation de notre population à redéfinir qu'est-ce qui est à moi, enfin moi en tant qu'homme, et qu'est-ce qui est aux animaux, qu'est-ce qui est aux végétaux, revoir la définition des terrains d'action des uns et des autres et les lieux d'interaction. C'est une philosophiquement, il y a un gros travail à avoir.
Oui, je pense qu'effectivement, il y a un gros travail sur cette compréhension, parce que les choses vont pas de soi. Donc effectivement, faut donner un sens à cette action des politiques publiques, qui est un sens justement sur le long terme, sur effectivement la qualité de vie, la survie effectivement de l'humanité face à ces gros enjeux liés notamment au changement climatique et à l'érosion de la biodiversité. L'autre élément important aussi de la pédagogie sur laquelle il faut que l'on travaille, c'est comment chaque habitant peut être un acteur de cette transformation. Ça, c'est un élément aussi.
Est-ce qu'on ne serait pas en train de refaire de chaque ville une arche de Noé?
Mais c'est un petit peu le message qui est à faire passer. Hein. La ville, elle concentre la richesse, mais elle concentre aussi beaucoup de maux. Et pour s'en sortir, effectivement, il faut la transformer. Cette transformation, c'est clairement les collectivités qui ont une partie de la réponse en termes de connaissances techniques, en termes de capacité d'intervention. Mais c'est pas suffisant. Le tissu de l'institution, c'est pas l'ensemble du territoire qui est concerné. Et tous ces enjeux, c'est des enjeux de territoire. Et donc, si les collectivités ne se donnent pas comme objectif de sensibiliser leurs acteurs du territoire, leurs entreprises, leurs copropriétés, leurs habitants, pour que eux-mêmes prennent conscience de l'enjeu et participent sur leur propre domaine à la renaturation, à la création de ces continuités écologiques, à ces créations d'îlots de fraîcheur, l'action publique sera pas suffisante pour transformer la ville en un territoire accueillant.
Écoutez, merci Frédéric. Au regard de ce que nous venons d'entendre et donc les différents sujets que nous avons abordés, pourriez-vous nous dire quelles sont les activités ou quelles sont les actions emblématiques de la métropole de Lyon, les défis, les ressources pour agir aujourd'hui et demain?
Eh ben, actuellement, effectivement, la métropole, elle développe des grands plans, qui sont des plans qui sont consacrés à le changement de la manière de faire de l'urbanisme, le changement de la manière de construire la ville, le changement aussi de la gouvernance au niveau territorial. Et ces plans qui se superposent, qui ont des actions communes, il y en a quatre grands sur lesquels on travaille. Il y en a un qui s'appelle le plan climat, air, énergie territoriale, toutes les grandes villes connaissent bien, qui ouvre pas mal de leviers pour changer la manière de construire la ville. Ce plan, il se croise avec un autre plan que j'anime en particulier, qui s'appelle le plan Canopée, qui est un plan effectivement de renaturation de la ville et d'arborisation, qui croise les objectifs d'adaptation de la ville au changement climatique, mais d'autres objectifs. Le troisième plan, c'est le plan biodiversité, qui croise le plan Canopée et le plan climat autour d'objectifs de lutte contre l'érosion de la biodiversité. Et le quatrième plan qui croise ces trois plans, c'est le plan santé-environnement. Vous voyez que la boucle par rapport à la question de la santé se fait à ce niveau-là. Et ces quatre plans, c'est les quatre maillons d'une stratégie qui permettent de revoir un peu les fondamentaux de la conception et de la gestion de la ville.
Ça converge vers un plan, vers une seule finalité derrière, où ils vivent leur vie parallèle?
Non, ils ont chacun leur vie, mais ils sont coordonnés. C'est-à-dire qu'il y a certaines actions qui sont portées par tel plan, mais qui répondent simultanément aux autres plans. C'est une nouvelle manière de concevoir peut-être l'action publique, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur des silos étanches, on est effectivement sur l'acceptation effectivement de la complexité des choses, et une action, elle travaille de manière simultanée pour d'autres objectifs, et autant le dire et faire les choses clairement, et que les choses se complètent plutôt qu'elles se concurrencent.
Ça veut dire que tout le monde, est-ce que ça veut dire que tout ce qui compte débute ou toute idée ou tout choix repose avant sur une analyse des risques transversaux?
Oui, ça veut dire effectivement que la manière de penser les projets urbains, la manière de penser les dépenses publiques, elle doit se faire en questionnant ces différents axes liés au climat, à la biodiversité, à la canopée et à la santé.
Bon, mais écoutez, c'est effectivement là, vous avez de quoi faire.
Oui.
Les objectifs, c'est quoi le demain?
Les objectifs, c'est effectivement du court terme, du moyen terme et du long terme. C'est certain effectivement que on se donne des objectifs. Pour avoir des objectifs un peu ambitieux, il faut regarder un petit peu loin. Donc on est souvent sur une cible à 2030, ce qui permet aussi d'être transmandat politique, ce qui est quelque chose d'important effectivement pour éviter effectivement qu'il y ait des ruptures au niveau des cycles politiques. Mais effectivement, quand on travaille sur le développement de la canopée urbaine, on a des cibles 2050, on a des cibles 2100. Mais c'est certain que si on sort aujourd'hui des cibles 2100, les gens vont dire, ben, on a du temps, on commencera à y réfléchir en 2080. Donc
Oui,
effectivement, il faut que, pour être pragmatique et opportuniste, effectivement, avoir des solutions qui sont à mettre en œuvre dès 2020, mais en réfléchissant à chaque fois à l'action locale dans le cadre d'une réflexion globale.
écoutez, merci beaucoup Frédéric Ségur pour votre témoignage et votre regard porté sur la question de la végétalisation urbaine. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes responsable ingénierie prospective et de la direction patrimoine végétal de la métropole de Lyon.
Eh bien, merci également de votre écoute et à très bientôt.
Quant à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette émission ou la télécharger sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.